need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French.
Madame, monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce jeudi 20 février. Avec vous, Jean-Noël Ducasse pour vous accompagner pendant une heure en français. Et au sommaire de cette émission, le journal, les sports et comme chaque jeudi, le journal de l'économie australienne. Et au sommaire de ce bulletin de ce 20 février, la querelle publique entre le président américain Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky s'est intensifiée. Le chef du renseignement australien de l'ASIO affirme que les enfants radicalisés constituent une menace terroriste aussi crédible que les adultes, alors que l'Australie est confrontée à l'environnement de sécurité le plus complexe et le plus difficile de son histoire. Le Premier ministre Anthony Albanese était à Whyalla ce jeudi matin pour annoncer un plan de soutien à l'industrie de fabrication de l'acier, un jour après que le gouvernement de l'Australie du Sud a placé l'aciérie de la ville sous administration judiciaire. La querelle publique entre le président américain Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky s'est intensifiée. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Trump a qualifié Zelensky de dictateur qui n'organise pas d'élections et a déclaré qu'il avait, je cite, détourné l'aide des États-Unis vers l'Ukraine pour sa guerre contre la Russie, une guerre qui, selon Trump, n'aurait jamais dû commencer. Cela s'est produit après que Zelensky a déclaré que Trump répétait la désinformation russe sur l'invasion de l'Ukraine. Les propos de Trump ont suscité de vives réprimandes de la part de ses adversaires politiques nationaux, le sénateur du Parti démocrate Dick Durbin ayant déclaré que ses propos étaient offensants.
C'est outrageous. It's outrageous and not humorous that the president does these sorts of things, goes off on wild tangents and says things that are clearly false. What is really hurtful about this the most is with the sacrifice of the Ukrainian people. That we know has taken place. Thousands have died defending their country.
Et le président russe Vladimir Poutine accuse les dirigeants européens d'hystérie au sujet des négociations entre la Russie et les États-Unis pour tenter de mettre un terme à la guerre en Ukraine. Il affirme que l'Ukraine ne sera pas exclue des négociations. Poutine affirme que les dirigeants européens ont agi de manière déshonorante et qu'il n'est pas nécessaire que quiconque s'ingère entre la Russie et les États-Unis.
Do they want to sit here at the negotiating table and mediate between Russia and the United States? Well, probably not. So why the hysteria here? Hysteria is inappropriate.
Et après l'annonce de la rencontre surprise entre les États-Unis et la Russie, le président français Emmanuel Macron a tenu sa propre réunion d'urgence sur l'Ukraine avec l'OTAN et d'autres dirigeants européens à Paris mardi. La réunion de mardi s'est conclue par des discussions sur un éventuel déploiement de troupes de maintien de la paix en Ukraine, le Royaume-Uni et la France ayant indiqué leur volonté d'envoyer des troupes si nécessaire. Emmanuel Macron a déclaré qu'il organiserait une autre réunion sur la question plus tard cette semaine, mais maintient que le soutien de Washington est essentiel.
L'enjeu aujourd'hui est de donner les moyens à l'Ukraine de durer et d'entrer dans toute future négociation en position de force. L'enjeu demain, quand les hostilités s'arrêteront, sera de donner à l'Ukraine des garanties contre tout retour de la guerre sur son territoire et des assurances pour notre propre sécurité. À cela, l'Europe doit prendre toute sa part, comme nos armées le font déjà sur le flanc Est dans le cadre de l'Alliance.
En Australie, le chef du renseignement australien affirme que les enfants radicalisés constituent une menace terroriste aussi crédible que les adultes, alors que l'Australie est confrontée à l'environnement de sécurité le plus complexe et le plus difficile de son histoire. Dans une évaluation annuelle des menaces à grande échelle, le directeur général de l'ASIO, Mike Burgess, déclare qu'une génération de natifs du numérique, c'est-à-dire des personnes qui ont passé toutes leurs années de formation en ligne, entre désormais dans un âge vulnérable à la radicalisation. En référence aux évaluations de renseignements déclassifiés, Mike Burgess a révélé que l'âge moyen auquel les enfants font l'objet de la première enquête de l'ASIO est désormais de 15 ans, la charge de travail étant en grande majorité de sexe masculin et née en Australie.
Many of the recent cases we've dealt with are as sad and sobering as they are shocking. Minors allegedly sharing beheading videos in the schoolyard. A 12-year-old allegedly wanting to blow up a place of worship. A 17-year-old watching Nazi propaganda and Ku Klux Klan videos and scrawling "Gas the Jews" on the wall of a classroom. A 12-year-old allegedly planning a school shooting.
Le gouvernement fédéral va dépenser 2,4 milliards de dollars pour renflouer l'aciérie Whyalla en Australie du Sud après sa mise sous administration judiciaire suite aux difficultés financières des anciens propriétaires, la FG Alliance. 100 millions de dollars seront dépensés pour un soutien immédiat sur le terrain. 384 millions de dollars seront dépensés pour stabiliser l'aciérie et 1,9 milliard de dollars seront dépensés pour stabiliser l'avenir de l'aciérie en travaillant avec un nouveau propriétaire pour investir dans des mises à niveau et de nouvelles infrastructures. L'aciérie est l'une des deux seules en Australie et produit 75% de l'acier de construction du pays. Anthony Albanese affirme que la fabrication d'acier est trop importante pour que le gouvernement prenne une autre décision.
All the things that we dig up out of the ground, like our iron ore, like our met coal, like everything else that comes out of the ground in this country, we cannot just be a quarry that exports things overseas, waits for jobs to be created, wait for value to be added, and then import it back. That makes no sense.
Deux hommes ont été inculpés pour des agressions antisémites présumées survenues dans la banlieue est de Sydney le mois dernier. Un homme de 37 ans et un homme de 33 ans ont été inculpés pour un incident survenu aux premières heures du 17 janvier au cours duquel deux voitures ont été incendiées sur Military Road dans la banlieue de Dover Heights. Ils ont également été inculpés pour un incident survenu le 11 janvier à Queen's Park où cinq véhicules et deux maisons ont été tagués. Les hommes ont été arrêtés dans un établissement correctionnel par la Strike Force Pearl, qui a été formée par la police de Nouvelle-Galles du Sud pour enquêter sur des incidents antisémites présumés. Les hommes ont été placés en détention provisoire et comparaîtront devant un tribunal le 3 avril prochain. Et une femme accusée d'agression islamophobe sur deux femmes dans un centre commercial a pleuré devant le tribunal tandis que l'une des victimes dit rester traumatisée. Susan Gonulalan, 31 ans, est accusée d'avoir agressé une musulmane enceinte de 30 ans dans un complexe commercial d'Epping dans le nord de Melbourne. Elle est accusée d'avoir ensuite agressé Elaf Al-Essawi, 26 ans, environ 10 minutes plus tard. Le tribunal a été informé du diagnostic de schizophrénie de Mme Gonulalan avant que la magistrate Christina Windisch ne la place en détention provisoire. Elle doit comparaître à nouveau devant le tribunal ce jeudi. La valeur des propriétés régionales augmente plus rapidement que celle des propriétés des capitales. Les dernières données de la société de données immobilières CoreLogic montre une augmentation de 1% de la valeur des propriétés régionales au cours des trois mois précédents janvier contre une baisse de 0,7% dans les villes. Des villes comme Gladstone, Townsville et Mackay dans le Queensland, ainsi que Bunbury et Busselton en Australie-Occidentale, ont ajouté au moins 100 000 dollars à leur prix moyen au cours de l'année écoulée. En conséquence, les loyers dans les zones régionales ont augmenté de 1,6% contre 0,3% dans les villes. Mais CoreLogic prévient que les prix régionaux n'augmenteront pas aussi vite pendant longtemps. La tendance annuelle générale de la croissance des loyers continue de se modérer. Le milliardaire australien Clive Palmer est revenu en politique avant les élections fédérales prévues avant le 17 mai prochain. Cette décision intervient après que le précédent parti de Palmer, United Australia, a perdu sa tentative de réinscription devant la haute cour lors des prochaines élections. S'inspirant des politiques du président américain Donald Trump, il affirme que leur plus grande politique est de réduire le gaspillage gouvernemental en Australie. Et hier, lors de sa conférence de presse, Clive Palmer a souligné plusieurs priorités, notamment le soutien à l'idée qu'il n'y ait que deux sexes, l'homme et la femme. Le chef de l'opposition fédérale, Peter Dutton, a déclaré que même s'il était soulagé de la baisse des taux d'intérêt, les familles australiennes étaient toujours aux prises avec les pressions du coût de la vie. Dutton a déclaré que la baisse des taux était un soulagement pour les détenteurs de prêts hypothécaires, mais qu'elle aurait dû intervenir plus tôt.
The Prime Minister might be doing high fives with the Treasurer, but I know there are a lot of families who are still struggling to pay their grocery bill, struggling to pay their electricity bill or their gas bill. Everything has gone up under this government, and inflation is a big problem still in the economy, largely because of the government's renewables-only energy policy. So I want to make sure that we can support families by good economic management.
Le trésorier Jim Chalmers affirme que même s'il existe actuellement une grande incertitude économique mondiale, il est rassurant de constater que l'inflation ralentit considérablement.
Inflation's down substantially, wages are up, unemployment is low, the debt is down from what we inherited, and interest rates have started to be cut as well. All five of those things are positive developments. We're confident about the future of our economy, but we're not complacent. We know that there are still cost of living pressures. That's why the cost of living relief that we are rolling out, which Peter Dutton opposed, is so important.
Une majorité des membres de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, appelle au calme après une réunion à Genève dominée par les revendications et les contre-revendications des États-Unis et de la Chine. La Chine a profité de la réunion pour condamner les droits de douane de 10% imposés par le président américain Donald Trump sur toutes les importations chinoises, affirmant qu'il pourrait bouleverser le système commercial mondial. L'envoyé américain auprès de l'OMC a répondu en affirmant que l'économie chinoise est un système économique prédateur et non marchand. Le porte-parole de l'OMC, Ismaila Dieng, a déclaré que malgré les querelles entre les deux grandes puissances, les discussions ont été constructives.
China did share their view and made a statement public. What I can say is what the Director General said and what was the reaction of other members. The reaction, the tone was pretty constructive, and as I said, the large majority of members really stressed the importance of upholding the WTO principle and rules.
En Australie à nouveau, les autorités de Tasmanie ont déclaré que 157 baleines échouées près de la rivière Arthur, sur la côte ouest de l'État, devront être euthanisées dans les prochains jours. Brendan Clark, du service des parcs et de la faune de Tasmanie, affirme qu'il serait difficile de reproduire les techniques de sauvetage portuaire cette fois-ci. Et on passe à la météo pour ce jeudi en Australie, à Perth. Il fera 31 degrés, Adélaïde 29, Melbourne 21, Hobart 20, Canberra 24, Sydney 24, Brisbane 30, Cairns 32, Darwin 32 et à Alice Springs maximal de 38 degrés. Voilà, fin du journal. Merci de l'avoir suivi. 13h20 sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français. Et je passe maintenant l'antenne à notre collègue Christophe Mallet pour le journal des sports de ce jeudi.
Journal des sports, et on débute avec du football et les matchs de la Ligue des Champions. C'était les matchs retour des barrages, donc les 16e de finale de cette Ligue des Champions, avec de très belles affiches, et notamment un PSG-Brest qui se jouait au Parc des Princes à Paris, un festival parisien, 7-0 pour le Paris Saint-Germain. On écoute l'analyse du match avec Sofiane Amazian.
Une véritable démonstration, le PSG qui s'est amusé dans son stade au Parc des Princes, score final 7-0, 10-0 en score cumulé face au malheureux Stade Brestois, pas vraiment de répondant ce soir des Brestois face à des Parisiens intraitables et qui avaient remporté la manche aller 3-0, c'était du côté de Guingamp en Bretagne. Les buteurs: Bradley Barcola, Gvisha Kvaratskhelia, le géorgien arrivé de Naples, Vitinha, Désiré Doué, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos et le jeune Seni Mayounou. Vous voyez, la liste est longue, ont marqué ce soir pour confirmer que les Parisiens seront vraiment dangereux dans cette Ligue des Champions. Côté Brestois, eh bien c'est la douche froide, mais on retiendra la belle campagne européenne des Bretons, leur toute première conclue par cette élimination en barrage. L'écart était finalement trop grand entre les deux formations, tant le club de la capitale a paru facile lors de ces deux matchs. Le PSG qui continue logiquement l'aventure et qui affrontera en huitième de finale un cas d'or européen. Ce sera soit Liverpool, soit le FC Barcelone, en bref, un tout autre calibre que Brest, et les joueurs de Luis Enrique à ce moment-là seront attendus au tournant.
Voilà donc Sofiane Amazian pour RFI et le Paris Saint-Germain qui rencontrera donc soit Liverpool, soit le Barça au prochain tour. Les autres résultats de la nuit: PSV Eindhoven qui bat la Juventus sur le score de 3-1 avec qualification donc du PSV Eindhoven. Dortmund qui fait match nul contre le Sporting de Lisbonne 0-0. Le Borussia Dortmund est qualifié, et le carton du Real Madrid à Madrid sur le score de 3-1 face à Manchester City. L'analyse de Pierre Chaperon.
Oui, on a toujours l'impression que cette équipe du Real Madrid renaît et met ses petits soucis domestiques de côté en milieu de semaine avec la petite musique de la Ligue des Champions. Il va falloir retrouver la victoire. Ça commencera dimanche 16h15 contre Gérone, qui est un peu moins Gérone de l'année dernière. Donc normalement ça devrait aller. Mais bon, ce soir on a vu un bon Real, peut-être parti vers de nouvelles aventures européennes. Ici de toute façon on considère que cette équipe aux grandes oreilles, c'est leur coup, des fois ils peuvent la prêter à d'autres clubs. C'était Manchester il y a 2 ans, ça a été Chelsea, etc. Mais c'est leur coupe. Donc c'est forcément c'était un bon match, une bonne reprise pour le Real Madrid qui va peut-être devoir un petit peu accélérer le mouvement en Ligue 1.
Pierre Chaperon pour RFI. Retour sur les autres matchs de mardi dans cette Ligue des Champions avec Olivier Pron.
Et donc 4 éliminés, tout aussi surprenant, surtout chez les Italiens. Suspense sur tous les terrains ou presque, c'est ça qui est bien. À la trappe, donc 2 clubs italiens sur 2, le Milan AC et l'Atalanta Bergame, sortis respectivement par le Feyenoord Rotterdam et le club Bruges qui est allé s'imposer lourdement à Bergame 3-1 après avoir mené 3-0 à la pause. Qualifié aussi, mais in extremis, le Bayern Munich, longtemps mené et poussé vers la prolongation par le Celtic Glasgow avant de finir par égaliser à un partout grâce à Alphonso Davies au bout du temps additionnel. Le 4e qualifié aurait pu être, voire dû être, Monaco à Lisbonne, mais pour cela les Monégasques auraient dû ou pu s'acheter une défense. 2 fois ils ont mené au Benfica et cru emmener les Portugais en prolongation, mais non, 3-3, score final, les Lisboètes en 8e, et les regrets pour le capitaine Thilo Kehrer.
On est déçus, bien sûr, on a tout donné, à la fin c'était pas assez, il manquait un but, il manquait un petit peu, et malheureusement on sort ce soir, mais on sort avec la tête haute. Je pense que c'était un match éliminatoire où il faut tout mettre dedans, et bien sûr il y a des risques dans ce match-là. Les erreurs s'expliquent aussi un peu par ça, par le risque que tu es obligé à prendre si tu veux gagner, si tu veux continuer, surtout à l'extérieur dans un stade comme ça. Tu veux gagner avec 1 but d'écart ou 2 buts d'écart, tu es obligé de mettre des risques. C'est malheureux.
C'est malheureux, mais c'est pas volé côté Benfica qui était pourtant bien prenable.
Voilà donc pour la Ligue des Champions, ce qu'on pouvait dire pour cette journée de barrage, donc 16e de finale de la Ligue des Champions. On va parler également un mot de tennis pour conclure ce journal. Novak Djokovic s'est exprimé sur la sanction qui est tombée contre le numéro 1 mondial, l'Italien Yannick Sinner. On écoute Novak Djokovic.
Right now, there is a lack of trust, generally, from the tennis players, both men and female, towards WADA and ITIA and the whole process. So we either going to agree that all the cases will be transparent from the beginning, or all will be kept private until they're resolved. It's inconsistent. It appears to be very unfair. It's not a good image for our sport, that's for sure.
Voilà donc pour l'état du tennis mondial. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. À tout de suite.
h 30 minutes sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français. On passe au journal de l'économie australienne et vous êtes en compagnie de Christophe Mallet et de Nicolas Perpich.
SBS French, mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment, en ligne.
Allez, comme chaque semaine, on va décrypter l'actualité économique en Australie. Et il y a du travail cette semaine avec Nicolas Perpich. Bonjour Nicolas.
Bonjour Christophe.
Alors, on a du pain sur la planche, hein, puisque la Banque centrale a finalement coupé le taux d'intérêt. C'est une première depuis 4 ans. Alors, on peut en parler. On peut en parler.
Ah ouais, non, ça fait longtemps. Ça fait depuis novembre 2020. Alors, incroyable. On peut presque entendre le soulagement autour du pays. Ça fait tellement longtemps. Et là, ils ont coupé le taux d'intérêt par... 0,25%. Donc maintenant, le taux d'intérêt est à 4,1%. Et vraiment, ça s'est passé parce que l'inflation est en train de baisser plus vite qu'ils pensaient. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour tous les gens qui ont des hypothèques, qui ont emprunté de l'argent de la banque. Parce que là, avant ça, on avait vu le taux d'intérêt qui était monté 13 fois entre mai 2022 et novembre donc 2023. Et c'est sûr qu'on voit déjà les banques qui suivent. Westpac, NAB, CBA, ils ont déjà coupé leur taux d'intérêt. Et ça, c'est énorme parce que ça veut dire que les gens vont se retrouver avec un peu plus d'argent dans la poche, ce qui est important pendant cette crise du coût de la vie. Et donc, si quelqu'un a emprunté 660 000 dollars de la banque, ce qui est le mortgage moyen en Australie, bon, ça, ce qui s'est passé aujourd'hui, ça va vous économiser à peu près 100 dollars chaque mois. Donc c'est pas mal, 100 dollars chaque mois.
C'est beaucoup, c'est clair.
C'est beaucoup.
Et ce qui est plus important qu'autre chose aussi, c'est que on sait que la Banque centrale australienne ne joue pas avec les taux comme ça, hein, c'est pas au hasard. Donc on peut s'attendre à ce que soit ça, la prochaine fois ça continue à descendre ou ça stagne. En tout cas, ça peut être ça peut être un signe d'un mouvement qui repartira plutôt vers la baisse où l'argent deviendra moins cher, donc du coup coûtera moins cher à tout le monde.
Oui, c'est ça. On s'attend à ça parce que en décembre ils n'avaient pas coupé le taux d'intérêt, mais ils avaient dit qu'ils gagnent en confiance, que les choses s'améliorent. Et là, donc on pense que en fait la banque centrale devrait couper le taux d'intérêt encore deux fois cette année, au milieu de l'année, vers la fin de l'année. Donc c'est voilà, l'argent va coûter moins cher. Les gens qui ont, par exemple, il y a des gens qui travaillent 7 jours sur 7 parce que ils ont des dettes énormes sur leur maison, sur leur business. Ils travaillent 70 heures par semaine. Et là, ça va peut-être aider un petit peu. Pas dans le sens juste seulement que eux, ils auront moins d'argent à donner à la banque en repayement, mais aussi si les clients ont un peu plus d'argent, peut-être qu'ils vont dépenser un peu plus d'argent. Donc pour ces gens qui ont des petits business, des petits commerçants, ça pourrait vraiment les aider d'une façon vraiment très très directe et voilà, les laisser respirer un peu plus.
Mmh. Alors je sais que c'est pas lié du tout parce que la Banque centrale australienne est complètement indépendante, mais entre guillemets on peut dire que ça tombe bien pour un gouvernement albanais qui commence à être un peu à bout de souffle dans une année où il peut y avoir des élections assez rapidement en fait.
Oui, tout à fait. Donc là, c'est sûr que ça va influencer la décision d'Anthony Albanese. Si maintenant on pourrait s'attendre à une déclaration par lui assez rapidement, ça dépend. Il va peut-être attendre la fin des élections en Australie-Occidentale. Mais là, c'est plus probable qu'on va avoir des élections en Australie en avril plutôt qu'en mai. Il a jusqu'à la fin du mois de mai pour avoir les élections. Si la Banque centrale n'avait pas agi, n'avait pas coupé le taux d'intérêt, ça aurait été plus probable que ça serait plus tard les élections. Mais là, c'est plus probable que ça va être un peu plus tôt. Mmh. Donc on parle de peut-être le 5 avril ou le 12 avril.
D'accord.
On n'est pas sûr, faut attendre. Il y a aussi ANZAC, il y a EISTA, il y a Pâques aussi, donc il ne veut pas faire ça le week-end de Pâques, ça c'est sûr. Donc ça serait probablement avant Pâques. Mais
d'accord.
Bon, il faut attendre.
Ouais. On attache nos ceintures et on attend. allez, un autre sujet qui aussi est lié, hein, d'ailleurs, c'est le manque de logements qui pousse le gouvernement à réfléchir et peut-être même à passer une loi sur interdire des investisseurs étrangers d'acheter certaines propriétés en Australie. Alors, c'était le cas déjà avant. Il y avait un bureau, hein, le Foreign Investment Bureau, qui avait été créé pendant une époque, qui a été démantelé. Est-ce qu'on va repartir sur un Foreign Investment Bureau et sur aussi une décision de qui peut acheter quoi en Australie quand on est étranger?
Oui, parce que là en fait c'est lié aux élections aussi, parce que ça, ce que propose le gouvernement, c'est ce que Peter Dutton avait proposé déjà. Donc ils suivent Peter Dutton parce qu'ils veulent éliminer ça comme une question ou un point d'attaque par les libéraux avant les élections. Et donc ce qu'ils ont dit, c'est que le gouvernement fédéral va interdire les maisons en Australie d'être achetées par les étrangers pendant 2 ans, sauf les nouvelles maisons. Donc c'est les maisons qui existent déjà. Mais bon, quand on regarde ça de près, les gens qui viennent de l'étranger ou qui habitent à l'étranger, qui investissent en Australie, ils sont propriétaires de à peu près 2% des maisons en Australie. Donc c'est pas rien quand même, c'est toujours énormément de maisons. Mais là, ils vont resserrer ça encore plus. Donc à partir du 1er avril, ça va se passer. Donc c'est pas juste les gens qui habitent à l'étranger, c'est les compagnies qui les compagnies étrangères et même les résidents temporaires ici en Australie. Donc ça c'est assez important parce que si on est résident temporaire en Australie, on habite ici pendant des années même, et tout d'un coup eux ils vont pas non plus pouvoir acheter des maisons nouvelles. Donc ça va peut-être pousser des gens à devenir citoyens s'ils le peuvent.
Oui.
mais voilà, donc l'intention de tout ça, c'était de neutraliser cette question après l'annonce de Peter Dutton après le budget l'année dernière.
D'accord.
Voilà, donc mais est-ce que ça va vraiment faire une différence? Oui. Quand même, il y a eu plus de 5300 maisons achetées par des étrangers l'année dernière, mais ça fait aussi partie des efforts du gouvernement d'agrandir le stock des maisons achetées pour les Australiens, parce que ça c'est vraiment un point de pression énorme sur les gouvernements, et ils font tout ce qu'ils peuvent, et le gouvernement peut maintenant dire voilà, on fait tout ce qu'on peut, on empêche les étrangers de les acheter comme s'il y a plus de maisons pour les Australiens. Sauf, bien sûr, comme on vient de dire, les nouvelles maisons, et en particulier si c'est un propos pour un grand développement où ils vont construire beaucoup d'appartements et beaucoup de maisons, là, c'est sûr qu'il y aura des exemptions. Ils vont pas empêcher les compagnies étrangères de faire ça, parce que quand même ça va rajouter beaucoup de stock aussi. Donc,
ils sont pas fous non plus.
Ils sont pas fous non plus. Voilà, c'est un mélange de politique et d'économie et de pragmatisme.
Absolument. Merci Nicolas d'avoir décrypté l'actu économique pour nous cette semaine.
Merci Christophe.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Vos conversations. SBS French.
Eh bien, on a le plaisir d'avoir Eliane Lesade, qui est pianiste de musique classique très connue en Australie et également aux États-Unis. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio SBS en Australie.
Merci.
On va parler de ce concert qui aura lieu dans le cadre du Brunswick Beethoven Festival pour le samedi 22 février prochain. C'est la 17e édition de ce festival. Alors, que pouvez-vous nous dire sur le répertoire que vous allez présenter? Est-ce que vous êtes seul sur scène?
Non, cette fois-ci, je joue avec les deux quintettes de Mozart et Beethoven pour piano et cor.
Et les musiciens qui vous accompagnent?
Oui, c'est Phil Arkenstall qui joue de la clarinette, Clara Blackwood qui joue le cor, et Jacques Schiller qui va jouer le basson, et Josh De Graaf qui va jouer le hautbois. Et moi, je joue du piano.
Ensuite, après, vous avez d'autres projets pour 2025, j'imagine?
Alors, après ça, je vais jouer au mois de mars, je dois jouer à Hawthorne Town Hall pour la 50e anniversaire de 3MBS Radio. Et puis, c'est un grand gala, un concert qu'ils ont organisé. Après ça, je vais jouer des concerts. Je fais des concerts dans mon studio où je donne des concerts et en même temps, je donne à manger à tout le monde. C'est un truc très intime pour 50 personnes.
Ouais.
Et c'est un pianiste qui vient de l'Italie qui va jouer avec moi des morceaux pour deux pianos et pour piano quatre mains. Alors, il va venir m'accompagner. Et puis, après ça, je vais jouer Camberwell Music Series à Camberwell Uniting Church. Et puis, ça sera le trio de Schubert en si bémol majeur avec la première violoniste du Tasmanian Orchestra à Hobart. Et Luc Saverne qui joue du violoncelle souvent avec moi. Et ça, ce sera le 13 mai à Camberwell. Après, Zelman Symphony, je vais jouer L'Empereur. C'est le concerto de Beethoven, le cinquième, le très connu. Et puis, ça sera le 29 juin à MLC, Methodist Ladies College. Vous voulez que je vous dise... Encore
oui,
plus.
Donnez-nous des dates. Okay. Allons profiter de l'occasion.
Alors, Iwaki, je vais jouer, je ne sais pas la date, mais c'est la première semaine de août avec, c'est une série de MSO, c'est la musique de chambre, et ça sera un concert qui s'appelle War Poetry. Et ça sera une combinaison de la poésie qui sera... c'est un acteur qui va le lire. Et puis, on va jouer des morceaux la musique de chambre avec des musiciens qui viennent de l'orchestre de Melbourne. Et ça sera superbe comme programme. Et ça sera la première semaine de août. Je crois que c'est un dimanche. Oui, oui, c'est le premier dimanche de août, je crois. Je vais jouer... Attendez, j'ai pas toutes les dates dans ma tête, mais le 16 novembre, je vais jouer le deuxième concerto de Beethoven et Rhapsodie en bleu par Gershwin avec la symphonie de Bendigo. Et deux semaines plus tard, le dernier dimanche de novembre, je vais jouer la chorale fantaisie de Beethoven avec Gisborne Singers.
Donc, un programme très chargé pour 2025.
Ah oui, oui. Peut-être trop, mais il faut que je fasse tout ça avant que je meure.
Je reviens sur la 16e édition du Brunswick Beethoven Festival le 22 oui. février prochain. Que diriez-vous aux gens qui nous écoutent, peut-être pour les encourager à venir découvrir les œuvres de Beethoven, de Mozart?
Ça, c'est un programme très intéressant parce que Mozart a dit lui-même que le quintet pour piano et wind quintet, piano and winds quintet. Alors, c'est intéressant parce que lui, il a dit que c'était sa meilleure composition, sa meilleure œuvre.
Oui.
Alors, et Beethoven, il a écouté cette œuvre et lui aussi, il a fait pour les mêmes instruments et dans presque les mêmes formes de mouvement et tout. Il a fait, et dans la même, mi bémol majeur, tous les deux sont dans la même clé. Et puis, c'est fantastique parce que c'est un hommage à Mozart qu'il fasse ce quintet. Alors, oui, c'est absolument la musique de joie. C'est très classique, bien sûr. C'est la musique très facile à écouter pour les gens qui ne connaissent pas la musique classique, mais pour les gens qui connaissent, c'est des œuvres magnifiques.
À très bientôt sur les ondes de Radio SBS.
Merci de m'avoir téléphoné. Au revoir.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Et en fin d'émission, un rappel des titres de ce 20 février. La querelle publique entre le président américain Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky s'est intensifié. Le chef du renseignement australien affirme que les enfants radicalisés constituent une menace terroriste aussi crédible que les adultes, alors que l'Australie est confrontée à l'environnement de sécurité le plus complexe et le plus difficile de son histoire. Le Premier ministre Anthony Albanese était à Whyalla ce jeudi matin pour annoncer un plan de soutien à l'industrie de fabrication de l'acier un jour après que le gouvernement de l'Australie du Sud a placé l'aciérie de la ville sous administration judiciaire. Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous ce week-end, le samedi et le dimanche à partir de 13h. N'oubliez pas d'écouter SBS French les mardis, les jeudis, les samedis, les dimanches à 13h. Suivez-nous sur Facebook et Instagram. Téléchargez l'application SBS Audio et abonnez-vous à SBS French. Vous pouvez également écouter le contenu audio de SBS French à tout moment via YouTube, Apple Podcasts, Spotify et d'autres plateforme. Bel après-midi. À bientôt.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts.
If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.